Chapitre 3. Vers le cap de la chèvre. Oubliant la brume, dont les derniers lambeaux traînaient au loin, s'envolaient en blanches et impalpables fumées, achevant de découvrir la pointe des Capucins, l'entrée du Goulet, le phare du Petit Minou, le fort Mingan, toute la côte du Léon, désintéressée du retour de la Croix du Sud, malgré ses 2 ans d'absence et son arrivée imprévue, les pêcheurs amassés sur le quai, devant l'hôtel de la Marine, tout au dernier incident survenu, à l'émotion provoquée par ce nom jeté au milieu d'eux, causaient, en regardant s'éloigner les 2 prêtres, Denis le Marec, Balanec et sa fille. « Curieux tout de même cette aventure !» observa Maradour, clignant ses yeux malins et se balançant sur ses mollets bombés, jambes écartées, mains derrière le dos. « On dira ce qu'on voudra, c'est curieux. » Et il avait un dodelinement de la tête plein de sous-entendus, semblant désigner tantôt le groupe qui s'en allait dans la direction de la rue conduisant au bourg, tantôt l'intérieur de l'hôtel d'Orso. À 2 ou 3 reprises, sans se dissimuler, le Marec s'était retourné, comme s'il eût suivi son oncle à regret, manifestant une visible inquiétude de ce que deviendrait la jeune fille qu'il avait recueillie. Ce manège intéressait vivement Kervarec, qui lança gaiement, indiquant un point invisible au-delà des moulins du sud, possible qu'il lui ait promis de la reconduire jusque chez elle par là-bas, et que ça lui deuille de la laisser ainsi en panne.
« Chez son père ? Ah bien, j'aime mieux que ce soit lui que moi, pour sûr. Le reboutou, brrr, pas bon à fréquenter. »
Lagadec, un trembleur dans le genre de Trémor, secouait le menton, peu désireux de diriger sa promenade du côté du cap de la chèvre, et il eut une significative ondulation des épaules en achevant sa phrase hésitante.
« T'en aurais peur de ce reboutou, toi ? Un ancien matelot, toi qui as fait du service ?»
gouailla Kervarec, les lèvres en mépris.
« J'ai pas crainte d'un homme si fort qu'il soit, tu entends. Un homme, on en vient toujours à bout un jour ou l'autre. Mais celui-là, c'est pas un homme comme nous, c'est le reboutou, et ma foi, tant si brave qu'on est, eh bien, tout de même, il n'y a pas de honte, quoi. »
Il n'achevait pas, un bras balancé de haut en bas devant son visage cuit de soleil, où ses yeux pâlissaient, ternis de trouble. Hervé Trémor vint à son aide, amplifiant.
« Moi, la trouvaille au Denis le Marec, je l'aurais laissée où elle était, sûre, comme je le dis. Ah, elle aurait pu aller au large si elle avait voulu, c'est pas moi qui l'en aurais empêché. » « Est-ce que vous trouvez ça naturel, vous autres, cette barque naviguant toute seule, en pleine brume, avec une femme dedans, et que, justement, cette femme soit la fille du sorcier, hein ? Et dans des parages qui ne sont que trop bien habités par ce monde-là durant le mauvais temps ?»
Comme on ne semblait pas comprendre son insinuation, il expliqua.
« On n'est pas des savants qui savent tout. » Mais tout un chacun de nous sait bien ce que ça vaut, ces rencontres-là, et qu'elles ne portent pas bonheur. Oh, mais non! Et j'aime mieux à cette heure me trouver dans ma peau que dans celle du Marec. C'est le bac sorcerez que nous disons, le bateau des sorcières, comme on en trouve par chez nous, autour de l'île de Saint, quand on dit qu'on l'a vu, on meurt dans la semaine. Du reste, ça ne vaut pas mieux que le bagnoz, le bateau de nuit, qui rôde aussi par là et qui mène droit dans les brisants, au danger, celui qui a le malheur de mettre le cap dessus. Aussi, on ne m'ôtera pas de l'idée que c'est le bateau de nuit qui nous a fait perdre sur le chevreau avec l'espoir en Dieu lors de notre dernier retour d'Espagne, dont Bozanec, Kervarec et tous ceux qu'on était doivent bien se souvenir. Puisqu'elle l'a sauvé, le Denis le Marec, il l'a dit lui-même, opposa Kervarec.
Mais Trémor secoua la tête.
Est-ce qu'il pouvait savoir ? Je vous dis qu'il n'arrive jamais rien de naturel avec ceux de là-bas, de ce cap de la chèvre, et que si la Croix du Sud est ici en sûreté, c'est bien plutôt aux prières du recteur et à Notre-Dame du Roc qu'on le doit qu'à cette... Reboutou, fille du Reboutou, du monde qui ne me va pas. »
Et pour lui, pour d'autres, pour beaucoup, c'était le Reboutou, pas un être comme eux. Ce Reboutou, une personnalité étrange, presque mystérieuse, tant les vacillants brouillards de l'énigme enveloppaient ses actes, sa vie, jusqu'à son individu, et que son éloignement, sa solitude, rendaient plus troublante encore. Un être qui faisait toujours travailler les têtes à Camaret quand son nom tombait dans quelque conversation. Un nom fameux dans le plus petit des villages, dans le plus mince des hameaux parsemés à travers la presqu'île de Crozon. Bien qu'il poussât rarement ses tournées et ses aventureuses promenades jusqu'au petit port, éloigné de sa demeure d'au moins 5 lieues, la plupart des Camarétois le connaissaient pour l'avoir vu un jour, une heure. Ceux qui n'avaient fait que l'apercevoir, même de loin, conservaient toujours dans leurs prunelles visionnaires le hantant souvenir d'une silhouette d'autant plus inquiétante qu'elle restait indéterminée. Ceux qui ne l'avaient jamais rencontré en avaient une vision formidable, surnaturelle, l'idée d'un personnage de légende. Pourtant, il avait des défenseurs. Et, tout de suite après l'apostrophe de Trémor, le vieux Le Fur s'était rapproché, souriant, très affirmatif.
« C'est un homme, je vous dis, moi, et un brave homme encore, ce tonton Nédélec. On ne saura jamais tout ce qu'il a fait de bien dans son existence. Et si les gens qu'il a soignés ne sont pas des ingrats, ils le diront et le reconnaîtront tout comme moi. Demandez plutôt à Le Guen, le gardien du Toulinguet, qu'il a sauvé d'une mauvaise toux, à l'Arvor de Morgat, qu'il a débarrassé de ses douleurs et à tant d'autres que je ne me souviens plus. Possible qu'il ait des protections qu'on ne sait pas. Possible qu'il soit point mal avec ceux qui fréquentent de nuit la lande où il habite. Possible encore qu'il s'entende avec les pierres grises, ses voisines. Possible tout cela. C'est ses affaires, point les nôtres, pas vrai ? Chacun vit comme il l'entend, et quand on ne fait pas de mal à personne, rien que du bien, au contraire, alors. »
D'autres anciens autour de Le Fur approuvèrent, nullement rebelles à cette incertaine idée de protecteur surnaturel, aidant Nédélec Gualen dans ses guérisons. Ils n'y voyaient aucun inconvénient, ne lui en faisaient aucun crime. En vrai breton du vieux temps habitué à associer sans répugnance la légende et la religion, les saintes du christianisme et les korriganes de la lande.
« Au diable, il m'a bien guéri d'une entorse, que les médecins n'y avaient rien pu, et que je devais rester estropié pour le restant de mes jours. Est-ce que je vais me croire damné pour m'être adressé à lui ? Des contes, tout cela !»
C'était Bozanec, qui intervenait avec sa voix autoritaire, habitué à parler à ses matelots, à diriger un équipage. Quelques autres, qui n'avaient pas les croyances de Le Fur et de ses contemporains, parfois un peu trop nourris d'histoires de feu follet, apportèrent à leur tour des preuves de l'adresse de l'homme du Cap de la Chèvre, qui, pour de mauvais panaris, comme les pêcheurs en attrapent tant avec tous les poissons à épines qu'ils ramassent dans leurs filets, qui, pour une fièvre dont rien ne pouvait venir à bout, qui, pour des rhumatismes ou des maux de gorge. Tout cela, sans drogue nauséabonde, sans ordonnance compliquée, sans appareil terrorisant, rien que par des frictions habiles, des massages, des cataplasmes de plantes, des infusions, des boissons d'herbes aromatiques recueillies par lui. À mesure que les preuves abondaient, que les faits se précisaient, c'étaient ses louanges qui dominaient, refoulant les suppositions cruelles, les méfiances. Et une majorité de défenseurs se montraient pour ce Reboutou, devenant un être de bienfaisance et de bonté. Tout de même, que monsieur le recteur ne l'aime pas, votre tonton Nédélec, et qu'il nous a fait comprendre plus d'une fois que c'était péché d'entrer seulement en relation avec lui, vous êtes-vous dit donc plus savant que lui ? Vous l'avez cependant entendu tout à l'heure, pas vrai ? La veuve Pénéguèze, sa mante noire toute secouée d'un frémissement, protestait ainsi contre cette séduction qui semblait entraîner les pêcheurs à l'indulgence pour le Reboutou
et aucun n'osa répondre dans la crainte de paraître, en une aussi grave question, prendre parti contre l'abbé Kerbiriou qu'ils vénéraient tous. Mais une voix connue les fit brusquement retourner, surpris en pleine indécision, et, dans ce désarroi de leurs idées, de la conduite à tenir, ils furent heureux de voir Madame d'Orso apparaître sur le seuil de sa porte et de s'entendre apostropher.
« Eh bien, quoi ? Monsieur le recteur peut avoir son idée qu'il croit bonne, et encore, il a certainement raison en tant que prêtre, mais tant qu'homme, c'est autre chose, et je ne crains pas de le dire tout franc, moi. »
Elle avait parlé ainsi, en une subite révolte du regard et de la lèvre, dressée dans l'encadrement de la baie vitrée, à travers laquelle on apercevait l'intérieur de la boutique, encombrée de bouteilles, de petites tables, de fleurs et de verdure, avec, au fond, son comptoir pour le débit des boissons. Elle poursuivit, convaincue et autoritaire, avec le bel entêtement qu'elle apportait à tout ce qu'elle disait, à tout ce qu'elle faisait, œuvre de dévouement ou de travail.
« Est-ce que vous n'êtes pas d'avis, là, tous tant que vous êtes, que deux hommes comme notre curé et tonton Nédélec Goalen sont faits pour s'entendre et que le pays n'aurait qu'à y gagner ? Je suis aussi bonne chrétienne que qui que ce soit dans Camaret, n'est-ce pas ? Et pourtant, je trouve gros dommage qu'un tel désaccord puisse exister entre eux. Monsieur l'abbé, qui est un saint, un vrai homme de Dieu, devrait bien comprendre. Je ne puis pourtant pas le conseiller, moi, une pauvre vieille femme qui ne sait pas parler et qui n'ait pas son instruction. » Son intonation faiblissait un peu, comme si, malgré son courage, malgré sa hardiesse, elle n'eût cependant pas trop osé prendre parti pour le rebouteur plutôt que pour le prêtre. Sa ferveur de catholique pratiquante et croyante l'arrêtait, s'y opposait, l'empêchant de donner tort au recteur. Mais on sentait bien que, tout au fond d'elle, l'âme bretonne, l'âme reçue des aïeux, était pour Goalen, pour ce reboutou captiveur d'imagination, évocateur de rêves, caresseur de ce goût de mystère, de cette soif d'inconnu qui gît au plus secret des cœurs humains. Quand elle reprit, son accent avait un peu changé, moins tranchant, plus travaillé de doutes, d'hésitations, se traînant en une interrogation presque douloureuse. « Il n'est pas croyable, voyez-vous, qu'un homme qui, à ma connaissance, a fait tant d'heureux, a soulagé tant de souffrances, a consolé tant de misères, soit un mauvais homme, un être sans religion, voué au diable. » Elle ajoutait, « Ce n'est pas parce qu'il est plein de légendes comme un Tampiliou, ou parce qu'il habite dans le voisinage des pierres qu'il faudrait tout en grand le repousser. Est-ce qu'on sait ?» De la main, d'un geste vague, épars devant elle, la doyenne, le cerveau encore hanté de vieilles croyances mi-catholiques, mi-légendaires, semblait excuser ses défaillances, secrètement partagées peut-être, et qui, en tout cas, ne l'épouvantait pas, elle, la dévote convaincue, ne lui paraissant ni monstrueuse, ni criminelle. Elle conclut, comme le vieux le furent, « Après tout, un brave homme !» Instinctivement, sans oser l'avouer tout haut, en respectueuse de la religion, elle en voulait un peu au recteur de se montrer si impitoyable, si intraitable, n'admettant pas d'accommodement, lui, entre l'Église dont il était le représentant et ce reboutou qui, à ses yeux, était le danger, le réprouvé. N'allait-il pas même jusqu'à assurer, elle l'avait entendu de ses propres oreilles, que cette apparence de bonté, de charité, n'était qu'une ruse de plus pour tromper les naïvetés, pour séduire et perdre les âmes. Avec un fort soupir, elle se retourna à un bruit de pas derrière elle et un sourire d'affection, de bonheur, éclaira ses yeux pâlis par les années, déplissa ses rides en voyant arriver Geneviève Goalen, accompagnée de Marie-Ange d'Orso. Elle eut un appel tendre, chaleureux. « Te voilà, mon cœur, tout à fait remise au moins !» De nouveau, c'était une tendresse, un maternel élan de charité qui la ressaisissait pour cette jeune fille qu'elle connaissait à peine. Ne lui ayant jamais parlé avant ce jour, et l'ayant seulement rencontrée plusieurs fois en allant à Crozon, une fois entre autres avec Louise Pénéguez. Elle la tutoyait avec son autorité familiale de grand-mère, habituée à considérer toutes les jeunesses un peu comme ses enfants, et, en outre, à cause de la grande pitié qu'elle ressentait pour elle. Comment serait-elle damnée cette enfant si gentille, si douce, si pieuse même, car elle priait, Madame d'Orso l'avait vue agenouillée dans l'église de Crozon, car elle invoquait, tout comme celle de son âge, les saints, les saintes, la Vierge. Était-ce donc là manœuvre diabolique, perversité dangereuse? À plein bras, elle la pressait contre sa poitrine. « Oui, chère petite, je vais te reconduire moi-même à ton père qui doit être bien inquiet, le pauvre homme. Il ne doit pas savoir ce que sa faillite est devenue. » La saisissant doucement par le bras, la patronne de l'hôtel s'avança de quelques pas sur le quai et s'adressant aux pêcheurs encore assemblés. « Qu'est-ce qui veut conduire tante Rosalie à Morgat et au Cap de la Chèvre chez tonton Nédélec ?» Elle était là, à côté d'elle, bien en vue dans le rayonnement de sa beauté triomphante, un peu sauvage, la fille du Reboutou, et ceux qui ne la connaissaient pas encore pouvaient à leur aise l'admirer. De taille moyenne, admirablement proportionnée, elle était remarquable surtout par l'éclat de ses larges yeux clairs, ouvrant leur lac glauque et mystérieux entre des cils noirs, par les teintes dorées de ses cheveux blonds, dont l'ondulation naturelle se perdait sous la broderie très simple de sa petite coiffe, semblable au bonnet camarétois. Le teint mat, très pâle, avait cependant ce ton chaud des marbres longtemps caressés par le soleil, hâlés par le vent, et on sentait la vie affluer sous le grain serré et poli de cet épiderme. Elle se tenait modestement appuyée à Madame d'Orso, osant à peine relever les yeux sous toutes ces prunelles qu'il examinait, l'étudiait et, par moments, une faible rougeur accentuait la vie de ses joues un peu frémissantes. « Une fièrement jolie fille, » approuva Kervarec. « Elle a des yeux qu'on n'en voit pas le fond. » Maradour reprit. « Malheureux que mon cheval soit malade aujourd'hui, sans quoi je partais, vrai, bien que la route soit pas fameuse. » Je le crains pas, moi, Nédélec Gualen, tout Reboutou qu'il est. » Ce fut Yves le Mohal qui décida. « 2 minutes pour atteler ma carriole, et je vous emmène, tante Rosalie. » Quelques instants plus tard, Madame d'Orso, laissant à sa fille Marie-Ange la garde et la direction de l'hôtel pour la journée, s'installait avec Geneviève Gualen dans la voiture d'Yves le Mohal, à laquelle était attelé un petit cheval maigre et vif qui, bien reposé, plein de sang, ne mettrait pas trop de temps à les amener dans les environs du Cap de la Chèvre. Il y eut, parmi les pêcheurs, de francs et loyaux saluts à l'adresse des deux femmes, quand le voiturier, faisant claquer son fouet, eut lancé son cheval, et plus d'un se sentit mieux disposé qu'auparavant pour le Reboutou, rien que d'avoir vu sa fille et d'avoir subi l'influence apaisante et conciliatrice de la doyenne du pays. Comme la voiture, après avoir tourné sur le quai dans la rue principale qui traverse Camaret, venait de dépasser la place Saint-Thomas, la mairie, la grande place plantée d'arbres, et arrivait à la hauteur de l'église, elle s'y trouva au moment même où Balanec et sa fille, après avoir reconduit le curé au presbytère, prenaient congé de lui. « Bon voyage, tante Rosalie !» cria sarcastiquement le mareyeur. « Vous voilà tout quasiment à cette heure dans la situation du fameux roi Gradelon quand il fuyait la fureur des vagues. Comme elle ne semblait pas saisir, il marmotta d'une voix plus basse, en se retournant à demi vers le prêtre. « N'est-ce pas, monsieur le recteur, qu'on pourrait lui dire aussi, si tu ne veux pas périr, débarrasse-toi du démon que tu portes derrière toi ?» Mais déjà la carriole disparaissait entre les maisons formant l'entrée du bourg et s'engageait sur la route de Crozon.
ni Geneviève, ni Madame d'Orso ne purent entendre ces derniers mots qui faisaient allusion à la sinistre aventure de la ville 10, détruite par la mer en raison des crimes de Dahu, fille du roi Gradelon, et que ce dernier, prévenu par Saint Guénolé, avait dû abandonner et laisser périr quand une voix terrible lui jeta trois fois du haut du ciel cette furieuse apostrophe.
« Tolandiaoul Ermor, divartavar !»«
Jette le diable à la mer de dessus ton cheval !» Le recteur, sans répondre, avait hoché la tête, tandis que Denis le Marec, n'osant prendre la défense de celle qu'il avait sauvée, se contentait de lui lancer un coup d'œil admiratif et douloureux, et qu'il sentait une flamme inconnue lui pénétrer jusqu'au fond du cœur en rencontrant le reconnaissant regard qu'elle lui avait jeté au passage.